Radio Show, l'interview.
Vous écoutez Radio 1, il est 9h24 ce matin, comme je vous le rappelais tout à l'heure. Je reçois Marie-France Irigoyen qui vient tout juste d'arriver de France ce matin même. Bonjour Marie-France.
Bonjour.
Alors, suite au vote de loi sur le harcèlement, cette psychiatre et psychanalyste nous donnera une conférence débat sur ce même thème ce mardi 11 décembre. Ce sera à partir de 15h jusqu'à 18h à l'UPF. Et nous recevons par la même occasion Alain Chirez, avocat spécialisé dans le droit du travail. Alain, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Et donc, on va en parler tout de suite ce matin. Je voulais commencer d'abord, est-ce que ce serait possible qu'on définisse le harcèlement moral? Qu'est-ce que le harcèlement moral? Oui, Marie-France, c'est toi qui te lance dans la question.
Oui, le harcèlement moral au travail, ce sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une atteinte au droit ou à la santé physique ou mentale d'une personne, une dégradation des conditions de travail. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que c'est une loi qui ne dit pas quels sont les agissements abusifs, mais qui est définie par les conséquences sur la personne qui est ciblée.
D'accord.
Et ce sont les jurisprudences qui ont eu lieu, puisque maintenant en France il y a une loi depuis une dizaine d'années.
Depuis 2002, oui.
Voilà. Et donc ce sont les jurisprudences qui ont commencé à définir un petit peu ce que c'était que le harcèlement moral. Alors si on veut entrer un peu dans le détail, au fond c'est quelqu'un qui est... Le but inconscient du harcèlement, c'est toujours de se débarrasser de quelqu'un. Quelqu'un qui gêne ou quelqu'un qui fait de l'ombre. Et inconsciemment, on lui pourrit la vie.
C'est toujours inconsciemment ou ça peut être aussi conscient?
Ça peut être conscient, oui, oui. Oui, c'est une bonne question, ça peut être conscient. Donc on lui pourrit la vie, soit par des humiliations, des attaques verbales.
Ça peut être de quel type
Ça peut être des injures, ça peut être une disqualification. T'es nul, t'es bon à rien, tu y arriveras pas. Ça peut être aussi une attaque du travail. C'est une attaque intime, mais qui se sert du travail. Alors, ça peut être ton travail ne vaut rien, faire refaire un travail éternellement, critiquer systématiquement. Et puis, il y a aussi tout un aspect d'isolement. C'est-à-dire c'est une personne à qui on ne parle plus, c'est quelqu'un qui est isolé dans le travail, qu'on n'intègre pas, qui n'a pas de formation, avec qui on ne va pas prendre un pot.
Justement, est-ce que le fait de mettre de côté quelqu'un, ça peut être du harcèlement moral?
Alors, pour qu'on parle de harcèlement moral, il faut qu'il y ait la répétition, je l'ai dit, mais il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de ces éléments. Un seul élément ne suffit pas pour constituer du harcèlement moral. En général, quand on est victime, on s'en rend pas compte tout de suite parce que on se sent petit à petit mangé, abîmé et on perd un peu confiance en soi.
Bien sûr.
Et petit à petit, la santé se dégrade, mais pas de façon évidente, sans qu'on l'attribue forcément à ce qui se passe.
La santé, ça peut être la santé physique, mais ça peut être aussi la santé mentale?
Ça peut être la santé physique par des troubles psychosomatiques, mais c'est aussi la santé mentale, alors là aussi par de l'irritabilité, le fait de moins bien dormir, d'avoir besoin de fumer un peu plus, boire un peu plus. Et puis, ça peut être un état dépressif, qui sont des états dépressifs qui peuvent être graves, qui peuvent éventuellement mener, s'il y a un contexte qui le favorise un peu, ça peut mener au suicide.
Oui, et ça, ce sont les conséquences, justement, d'un harcèlement moral.
Mais c'est
Ce n'est pas forcément l'issue du harcèlement moral, c'est pas forcément le suicide.
Non. Et pour un suicide, je dirais, il faut quand même d'autres raisons. C'est pas uniquement le harcèlement.
Ça va être un ensemble.
C'est un ensemble. Le problème qu'il y a, c'est que quand on subit ça, généralement, on n'est pas sûr de ce qui se passe et puis on a honte. Honte d'être maltraité et surtout honte de ne pas se défendre bien. Et parce que on a honte, on s'isole encore. On est déjà isolé parce que ça fait partie du processus.
Ouais.
Et en plus, on s'isole parce que, du coup, on ne se sent pas bien et donc on s'isole encore plus. Donc en fait, on se défend mal quand c'est comme ça. C'est pour ça que c'est important que ce soit connu, ce qu'est le harcèlement moral, parce que ça permet d'avoir des solutions.
Bien
et c'est ce qu'on a vu depuis qu'il y a la loi.
Pour l'entreprise, quelles peuvent être les conséquences d'une telle souffrance au travail? Parce que c'est pas sans risque pour l'entreprise non plus. Au contraire, elle doit bien traiter ses employés pour...
Alors, sur un plan de bon sens, je dirais que le harcèlement moral, c'est pas quelque chose qui est bon pour la productivité. Parce que celui qui est harcelé ne travaille pas bien.
Bien sûr.
Mais celui qui est harceleur,
il prend son temps pour harceler au lieu de travailler.
Il perd son temps à harceler. Mais il arrive aussi que ce soit l'entreprise elle-même qui est... Parce qu'il y a aussi du harcèlement, on va dire, institutionnel, où c'est l'entreprise elle-même qui veut se débarrasser d'un élément, par exemple, mais qui n'a pas les moyens de licencier, par exemple, ou quelque chose comme ça.
Là, ça va être un harcèlement collectif dans le cas de l'entreprise.
Puisqu'il y a eu des jurisprudences en ce sens, il peut y avoir du harcèlement qui est du harcèlement par la méthode de management qui consiste à casser quelqu'un pour essayer de faire partir certaines personnes. En particulier, on l'a pu le voir pour des femmes enceintes, on a pu le voir aussi pour des personnes protégées en général ou des personnes âgées, plus âgées, dont on veut se débarrasser. Donc ça, c'est des choses qui existent.
Pourquoi le suicide? Pourquoi cette issue au suicide? Ça n'arrive pas toujours, heureusement, comme tu l'as dit. Mais comment on peut l'expliquer? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Le travail, c'est la vie?
Oui.
Comme tu le disais, c'est dû à un ensemble.
Je pense que pour les suicides au travail, je crois qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. En plus du harcèlement moral, on parle des risques psychosociaux qui regroupent également le stress, les conflits et aussi le burn-out et aussi la pression au travail et un malaise général au travail. Je crois que actuellement les personnes attendent beaucoup du travail, ils attendent de se développer, de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail.
Bien sûr.
Et quelquefois ils sont déçus. Or les conditions de travail partout se sont dégradées. C'est-à-dire que de plus en plus on est dans la productivité, on a un travail qui est de moins en moins humain, c'est-à-dire de plus en plus avec les nouvelles technologies. Et les personnes se sentent effectivement très isolées. Alors, pour peu qu'il n'y ait pas une bonne ambiance, ça peut amener, qu'il y ait d'autres éléments peut-être personnels, ça peut aller jusqu'au suicide.
Est-ce qu'à cause de la crise, on peut dire qu'il y a une augmentation du harcèlement moral?
Moi, je pense que oui.
Oui?
Je pense que oui. Il y a des lieux, des entreprises, des chefs d'entreprise qui en ont conscience et qui font attention.
Oui.
Il y a de la prévention depuis que nous avons une loi. Mais il y a quand même une inquiétude beaucoup plus vaste qui peut amener, parce qu'on a peur pour son poste, ça peut amener, on a peur pour son avenir, on est inquiet, ça peut amener des conduites, ce qu'on pourrait appeler des conduites déloyales.
Tu commençais à en parler, mis à part l'aspect juridique, quelles solutions peuvent apporter les entreprises pour lutter contre le harcèlement moral? Donc à qui peuvent s'adresser les victimes? Existe-t-il de la prévention, donc tu le disais, comme pour le harcèlement sexuel? Comment ça se déroule?
Normalement, dans le texte de loi français, il y a une obligation de prévention pour les chefs d'entreprise qui peuvent même être sanctionnés s'ils ne le font pas. Pour le texte local, je ne sais pas, mais peut-être qu'Alain...
Voilà, peut-être qu'Alain le sait.
Va nous en parler. Mais donc, il y a obligation de prévention, de vigilance, et de faire en sorte de prendre des bonnes pratiques managériales.
Alain? Oui,
alors, effectivement, dans le texte polynésien, il y a aussi une obligation de sécurité résultat de la part de l'employeur. C'est le nouvel article LP 1141-10.
Oui. Alors, il faut parler bien près du micro, voilà, pour qu'on t'entende bien.
L'employeur prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement. Il prend toute disposition nécessaire. Alors, c'est très vaste, toute disposition nécessaire. Et je reviens sur ce que disait Marie-France fort justement tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'évolution de la jurisprudence, et c'est la même chose en Polynésie, et ça sera la même chose en Polynésie française, il n'y a pas seulement que la mauvaise foi du harceleur qui entre en compte, mais une méthode de gestion. Une méthode de gestion, ce qu'on appelle le harcèlement managérial, peut constituer du harcèlement, alors même qu'il n'y aurait pas de faute véritable de la part de l'employeur.
D'accord.
C'est ça qui est extrêmement important. Il y a une obligation de résultat quant à la santé, la santé des salariés. Et dans le texte polynésien, ça existe, ça figure. cette obligation de sécurité résultat. Voilà.
Bien sûr. On va continuer à parler de harcèlement moral juste après une courte pause. Donc ne nous quittez pas, évidemment, on continue à en parler sur Radio 1.
Radio Show, l'interview.
Vous écoutez Radio 1, il est 9h40. Je suis toujours en compagnie de Marie-France Irigoyenne, psychiatre et psychanalyste, qui donnera une conférence débat sur ce même thème, le thème du harcèlement moral, mardi 11, je le répète, mardi 11 décembre à partir de 15h à l'UPF. Et par la même occasion, on reçoit Alain Chirez, avocat spécialisé dans le droit du travail. Alors juste avant de faire la pause, on expliquait quelles étaient les solutions que pouvait mettre en place l'entreprise pour lutter contre le harcèlement moral. Donc normalement, ils doivent mettre en place de la prévention. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ces solutions sont efficaces par rapport aux chiffres? Est-ce que ça a baissé depuis qu'il y a eu la loi?
Je crois que très clairement, depuis qu'il y a eu la loi, la première chose, c'est que les personnes osent se plaindre beaucoup oui. plus vite et en dénoncer. Parler. Et on savent un peu se faire aider quand elles sentent que la situation pourrait être du harcèlement moral.
Elles n'hésitent plus.
Donc elles n'hésitent plus à aller le dénoncer. Ensuite se pose quand même le problème de la preuve, mais on peut leur oui. expliquer comment oui. recueillir des preuves. Ça prend du temps puisque c'est quelque chose qui se met en place dans le temps. Ensuite, un certain nombre de grandes entreprises, il faut être clair, qui tiennent à leur bonne image de marque, ou bien qui ont des dirigeants qui ont des principes sérieux concernant de respect des personnes, ont déjà mis des plans en place, des plans de prévention mm-hmm. qui marchent, c'est-à-dire qu'il y a moins de souffrance au travail, oui. les personnes ne sont plus peuvent quand quelque chose ne va pas peuvent aller en parler. La plus grande difficulté, c'est très clairement dans les administrations publiques, où c'est plus difficile de trouver un interlocuteur. Et puis, il faut pas oublier que il y a aussi les toutes petites entreprises familiales,
oui.
C'est beaucoup plus compliqué de dire comment on fait une prévention. Et il faut pas. C'est clair que la majorité des personnes sont employées pas dans des grandes entreprises, mais dans des toutes petites oui. entreprises. Donc là, il y a une éducation à faire. Mais je crois qu'on a quand même bien avancé depuis 10 ans.
Depuis 10 ans. Ouais. Alors, on parlait de dénonciation. Qui peut dénoncer le harcèlement? Est-ce que c'est obligatoirement la victime ou est-ce que ça peut être un témoin?
Alain va...
On va laisser Alain s'exprimer là-dessus.
Oui, alors, ça peut être effectivement un témoin. Quand c'est la victime ou quand c'est un témoin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi bien dans le droit métropolitain que dans la loi du pays en Polynésie française, il y a des protections.
Mm-hmm.
Il y a des protections, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sanctionner ou licencier quelqu'un qui aurait témoigné ou qui aurait subi ou qui aurait refusé de subir des agissements de harcèlement. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'on sait très bien que la preuve du harcèlement est extrêmement difficile à obtenir. Bon, vous avez bien sûr le rôle du médecin du travail
oui.
qui est essentiel. Hein. Quand vous avez un médecin du travail qui vous fait un certificat disant inapte à tout poste dans l'entreprise
oui.
ou apte à tout poste à l'extérieur de l'entreprise, c'est extrêmement parlant.
Oui, hein. Ça veut bon. Tout dire déjà.
Et quand vous avez des gens qui ont le courage d'attester, de faire des témoignages, bah, il faut qu'ils soient protégés. Et dans le texte qui est celui de la loi de pays, il y a effectivement des dispositions à ce titre. Il y a des dispositions qui protègent ces témoins. Voilà. Alors maintenant, sur la preuve elle-même, c'est en Polynésie française, bon, en métropole, il y a eu des tergiversations. Au début, on a dit le salarié doit présenter des faits. Et c'est à l'employeur à faire la preuve contraire que c'est pas du harcèlement. Puis après, on est revenu en arrière, on a dit le salarié doit établir des faits. Il n'y a rien dans le texte en Polynésie française qui fait que, à mon sens, je peux me tromper, on verra ouais. quelle est l'évolution de la jurisprudence, mais ça sera le droit commun, c'est-à-dire le droit commun pur et dur, c'est au salarié à apporter la preuve des faits de harcèlement.
En parlant de preuves, justement, comment peut-on prouver un harcèlement? Je pense notamment à l'affaire France Télécom. Comment réussir à prouver que c'est du harcèlement? Alors c'est vrai qu'il faut avoir les critères qu'on avait vus en définissant le harcèlement moral, mais ça doit pas être toujours très facile de prouver que c'est du harcèlement vraiment dans des cas concrets.
Oui,
dans certains cas, en tout cas.
C'est toujours difficile. Je crois qu'il faut prouver Alors, il faut faire une distinction parce que la loi dit pour objet, agissements qui ont pour objet ou pour effet. Mm-hmm. Ça veut dire que on peut harceler sans le faire exprès. Donc, il n'y a pas forcément une volonté malveillante.
Donc, ce qui va être puni,
c'est... Mais, par contre, ce qu'on a pu voir à travers les jurisprudences, c'est que au Code du travail, on tient compte de du fait qu'il n'y a pas forcément besoin de malveillance, mm-hmm. alors qu'au Code pénal, il est très clair qu'il faut qu'il y ait une intentionnalité malveillante.
Oui. D'accord.
Comment peut-on faire la preuve ? Bah, il faut recueillir idéalement des documents écrits, par exemple.
Ça peut être des témoignages.
Imprimer les mails désagréables et injurieux.
Oui.
Avoir des témoignages, mais en général, les collègues, s'ils veulent rester dans l'entreprise, vont pas témoigner.
C'est un effet de groupe.
C'est pas si facile. Mais ce qu'on a pu voir en tous les cas en France, c'est que si on note au jour après jour sur un cahier avec des pages numérotées, en étant très descriptif sur ce qui s'est passé, devant qui, à quelle heure, etc., eh bien ça a pu être pris en compte. Et puis il faut pas oublier aussi tous les certificats médicaux qui prouvent que c'est ce qui se passe dans l'entreprise a pu amener une dégradation de la santé de la personne, et ça c'est pris en compte également.
Oui, évidemment.
Donc effectivement c'est pas facile, mais on peut quand même.
Quand même réussir évidemment. En France, quelles sont les peines encourues pour les personnes qui ont pratiqué le harcèlement moral?
15 000 euros d'amende et 3 ans de prison.
Oui, c'est énorme. Est-ce que ça a déjà été appliqué?
Il y a déjà eu des peines de prison, oui. Oui, oui.
J'espère que ça les fait réfléchir pour ceux qui sont conscients, en tout cas.
Que ces sanctions, ça a aussi un but de dissuasion.
Voilà.
Vrai que si on veut pas avoir d'ennui, il faut mieux faire attention.
Alors, selon toi, pourquoi la Polynésie a-t-elle mis autant de temps à prendre en compte le harcèlement moral dans le droit du travail de la Polynésie française? Alain, je t'écoute.
Oui, alors, bon, d'abord, je voudrais dire que c'est un hasard fantastique que la loi du pays soit sortie il y a quelques jours et que Marie-Francière Higoyenne arrive maintenant.
Oui.
Enfin, je trouve que c'est quand même un signe du destin, un signal des dieux. Bon. Ensuite, en ce qui concerne le retard, c'est vrai que la Polynésie française a traîné les pieds pour mettre en place ce dispositif législatif qui, j'espère, mais il y a encore quelques petites incertitudes, sera définitif. Vous savez que la loi est encore contestable, etc. Bien. Donc il y a encore des délais.
Oui, bien sûr.
Pourquoi ça a duré? Bon, il faut interroger là-dessus et on aura la chance d'avoir des anthropologues. Lors de ce débat organisé par le GDI mardi 11 à partir de 15h, moi je vois deux possibilités, mais il faudra interroger les anthropologues. C'est d'une part la résistance et le silence du Polynésien face à la souffrance, qui fait qu'on ne se plaint pas.
Oui.
C'est certainement un des aspects très forts de cette résistance législative. Et puis le deuxième aspect, c'est le respect du chef. Le respect du chef, ce qui fait que, bon, bien sûr, le harcèlement n'est pas que du harcèlement vertical, c'est-à-dire le harcèlement d'un supérieur hiérarchique vers un subordonné. Mm-hmm. C'est aussi du harcèlement horizontal, c'est-à-dire d'un collègue vers un autre collègue, mais assez souvent quand même, il y a cette hiérarchie et peut-être qu'on peut voir là, dans le respect inné du Polynésien pour le chef, également un manque de plainte.
Le
fait que ça n'a pas affleuré au niveau législatif avant.
C'est vrai que les Polynésiens ne sont pas des gens qui se plaignent. Au contraire, ils encaissent vraiment. Mais que ce soit physiquement ou moralement, ce sont vraiment des personnes qui encaissent et qui sont très fortes de nature. Après 10 ans de lutte, on va terminer là-dessus, contre le harcèlement moral en France, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Il y a plus de dénonciations, plus de solutions que l'on trouve, que les entreprises trouvent? On fait un peu plus face.
Moi, ce que je dirais quand même, c'est que le monde du travail a changé partout, pas uniquement en France ou en Polynésie, mais dans tous les pays.
Bien sûr.
À cause de des nouvelles technologies, mais aussi de la financiarisation, de la mondialisation, on met une pression de plus en plus grande sur les salariés, quel que soit le contexte. Et en particulier, je dirais, ça on n'en a pas parlé, mais en particulier dans le secteur de la santé. Mm-hmm. Dans les hôpitaux, les conditions de travail se dégradent. Alors, ça donne cette inquiétude ambiante aussi avec la crise économique, la dégradation des conditions de travail un peu partout dans tous les secteurs, ça amène une plus grande fragilité des personnes et aussi peut-être une tentation de vouloir se défendre aux dépens de l'autre par des conduites déloyales. Alors, en même temps, il y a ce mouvement qui est la loi qui a amené un changement considérable.
Évidemment.
Et il y a actuellement une prise de conscience que c'est un mode de fonctionnement qu'on peut pas accepter parce que c'est contre-productif, au fond, pour tout le monde. Hein. On a envie de travailler bien et puis, avec ces conditions qui se dégradent, finalement, on peut pas y arriver.
Bien sûr.
Et pour les dirigeants, eh bien, c'est pas une très bonne solution. Donc il y a à la fois ce double mouvement d'une dégradation, mais aussi d'une prise de conscience que ça ne peut pas continuer.
Évidemment. Eh bien, merci beaucoup d'être venu parler dans notre émission.
Merci à toi
et Alain.
Merci beaucoup.
Et je le rappelle, on vous retrouvera donc mardi 11 décembre à partir de 15h à l'UPF pour une conférence débat. Il y aura également d'autres spécialistes, autant de Polynésie française hein, et vous deux. Donc je vous remercie. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, ben je vous invite à aller à cette conférence débat. Je le rappelle, mardi 11 décembre à partir de 15h jusqu'à 18h à l'Université de la Polynésie française. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis nous, on va continuer tout de suite après une petite courte pause.
Radio Show, l'interview.